888
sur Radio Grenouille.
Coucou.
On reçoit à l'instant sur le plateau, eh bien, c'est un peu pour eux qu'on est là, non?
C'est un petit peu pour eux qu'on est là. Ils ont commencé, ils se sont adaptés dans tous les sens. Ils se tordent et se distordent justement pour arriver à passer autour de ce match. C'est Laurent Coulondré et Johan Serra qui sont avec nous sur le plateau. Bonjour.
Salut les gars.
Salut.
Bonjour.
À tous les deux. On est également avec Romain Morello. Bonjour Romain.
Bonjour.
Tromboniste et professeur au Conservatoire de Marseille et qui participe notamment à l'ouverture littéralement du festival le 18 juillet avec Thomas de Porquerie et Sons of Love.
Exactement, avec quelques élèves de la classe.
Ouais.
Ça va être un beau rendez-vous, mais alors là du coup on voudrait commencer par ce début de set, donc ça a commencé, on s'est posé la question, là il y a eu plein d'interrogations, est-ce que ça reprendra à la mi-temps, est-ce qu'on entendra vos bras ou vos voix, et finalement voilà, on s'est arrêté sur les voix.
Ouais, alors on s'est dit, en fait le temps qu'on monte sur scène, qu'on joue, ça faisait 12 minutes, il vaut mieux qu'on garde ça pour la fin, hein, pour fêter... éventuelle victoire de la France ou de la Belgique, que le meilleur gagne, hein, j'ai envie de dire, on est très sport. Voilà, donc du coup on se retrouve à 10h si tout va bien, s'il n'y a pas de prolongation, c'est un peu l'inquiétude. Et sinon les prolongations, j'ai envie de dire, on éteindra les écrans et puis on jouera quand même.
Vous avez suivi la première mi-temps
vous avez... Alors, à contre-jour. Ça commence à être pas mal là. 0-0, non, c'est ça, hein.
Oui, c'est ça, non, mais
j'ai l'impression qu'il y avait...
Vous avez pas une petite analyse
selon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup vu, j'ai pas vu grand-chose.
Tu disais que tu voulais faire les Arazou.
Tu voulais faire le commentaire justement sur la deuxième mi-temps. on peut transformer ton rêve en réalité, on peut le faire. Si... Donc un commentaire sur le match avant qu'on retourne vers la musique et vers le jazz des 5.
Non, c'est bon, on va parler. Non, j'apprécie beaucoup les commentaires de Lizarazu quand je suivais les matchs.
Ok,
très bien. Alors justement, pas justement du tout, on va passer du coq à light sans davantage de transition. C'est sur cette formation en fait, je suis assez nouveau dans le jazz, mais j'avais connu le rock à deux justement, et il y a ce truc du jazz à deux justement, du duo, piano et batterie. Alors, sur le projet donc Gravity Zero, il n'y a pas qu'un seul batteur. Il y en a eu quatre. Tous en même temps, ou qu'est-ce qui change d'un batteur à l'autre pour un claviériste?
J'ai fait en sorte quand même de choisir des batteurs qui sont très différents. Et justement, pour aller chercher des sons différents, pour aller chercher l'interaction différente, pour aller chercher un univers différent. Et faire que ce disque en fait soit d'une certaine façon homogène, mais en même temps intéressant, et qu'il se passe des choses et qu'on se dise pas ouais il a pris 4 batteurs pour prendre 4 batteurs, bon d'accord.
Mais alors sur scène, Johan Serra joue un peu le rôle de peut-être pas des 4 batteurs, mais on retrouve par rapport à ce que tu dis cette diversité. Il y a des morceaux vraiment ultra modernes avec des métriques plutôt asymétriques justement, ou impaires, etc. Puis il y a un truc, il y a un morceau plus on sent le gros clin d'œil à Jimmy Smith, donc plus sur le format orgue, amande, batterie plus classique, entre guillemets, même si j'ai l'impression que c'était bien une composition. Hein.
Oui, c'était pas une reprise. Des compositions. Ouais. On verra si on fait une reprise à la Marseillaise ou quelque chose comme ça. On va voir, je sais pas, peut-être.
Petru.
Voilà, Petrucciani aussi, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est ça. En fait, il joue le rôle des quatre. Ça arrive des fois qu'on ait la chance de jouer à deux batteries. On l'a même fait une fois à trois. Mais c'est vrai qu'en tournée, c'est quand même un peu plus simple, notamment aussi à l'étranger, etc. Un peu plus léger comme ça d'aller à deux. Et puis c'est vrai que c'est quand même un format que moi j'apprécie vraiment, parce qu'on est tous les deux en même temps très libres, et en même temps c'est très important en fait. Le rôle de chacun est super important, et je trouve que ça donne vraiment une couleur différente de toutes les formations qu'on a pu voir en trio. Le trio est quand même encore omniprésent, mais c'était histoire de trouver quelque chose d'autre en fait, quelque chose qui... Et puis j'adore faire les basses, faut dire ça, ce qui est. J'adore faire les basses au pied, à la main, et du coup c'est vrai que à force ça prenait place, et je me suis dit que le bassiste, non.
Est-ce que le fait d'être à deux, ça oblige pas à être entre guillemets peut-être plus inventif dans le sens où la relation, bon, il faut la renouveler, quoi, de morceau en morceau, de pièce en pièce. Est-ce que ça n'oblige pas à trouver des formules, à trouver plus de formules différentes, peut-être que ça... quand on a une formation plus étendue?
Ouais, ça, je pense que ça oblige à aller chercher plus loin.
Oui, c'est ça. Je dis pas que c'est nécessaire, mais
parce que c'est vrai que quand on est trois, plus on est en fait, plus on peut s'appuyer sur les autres. Et c'est vrai que là, pour le coup, je pense que c'est pareil pour Johan, et il va en parler parce qu'il adore parler à la radio. c'est quand même un peu différent que de jouer directement avec un bassiste et un pianiste, et c'est-à-dire de pouvoir un peu jongler entre les deux et tout ça. Là, on a connexion tous les deux direct. Et on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait moins faire la fête.
Pourquoi ? Parce que le bassiste tenait mieux l'alcool.
Parce que des fois, le bassiste, voilà, à trois, on se tient le truc, on s'envoie l'énergie. À deux, s'il y en a un des deux qui est un peu plus faible, forcément, c'est plus dur. Hein ? T'es d'accord ?
Je suis d'accord.
Voilà, Yann Serra, s'il vous plaît.
Alors dans le fait de jouer avec plusieurs batteurs, je me demandais aussi, parce que chaque batteur a évidemment une sonorité différente, mais aussi une approche du rythme différente, voire un feeling rythmique différent. Je me souviens toujours de cette phrase un peu de Mingus, je crois que c'est dans son autobiographie, où il dit que le rythme, c'est pas un point, c'est pas des barres sur une partition en fait, c'est plus quelque chose de circulaire. Mm-hmm. Et par exemple, on peut jouer plus ou moins en avant, plus ou moins en arrière. Ce rapport au rythme aussi, ça fait partie des choses pour lesquelles tu as choisi les batteurs que tu as choisis.
Ouais, c'est ça. En fait, si on prend André Ceccarelli, Dédé, il a vraiment une notion de la pulse qui est vraiment très différente de l'approche qu'on peut avoir aujourd'hui, même s'il est super ouvert à tout ce qui se passe, etc. Et c'est vrai que, par exemple, pour le swing, moi, je sais que ça va être un placement très différent qu'avec Johan, qui va être aussi différent avec Martin aussi, parce que chacun a grandi avec une culture différente et c'est vrai que ça nous fait, enfin moi ça aussi ça me fait jouer différemment forcément. Ouais, c'est clair quoi, c'est clair et net. Ouais.
On se fait une petite pause musicale justement
avec un duo.
Avec un duo, pas n'importe lequel. Alors c'est aussi pour vous faire un peu réagir, mais c'est Meliana. Voilà.
Bien
donc
sûr.
C'est Brad Meldo, que certains considèrent comme l'un des plus grands pianistes du monde, et Marc Giuliana, que certains considèrent comme les plus grands batteurs du monde. Bref, on va pas.
Et oui, c'est dommage qu'ils ne tournent pas plus.
Perdre des podiums et des demi-finales, tout ça, dans le jazz non plus. Mais voilà, en tout cas, ils ont sorti un album ensemble en 2014, on en écoute un extrait. We'll be right back. Giuliana, on dit ça, ou Giuliana, ouais.
Giuliana.
Alias Meliana, vous connaissiez cet album,
ouais,
j'imagine.
Un petit peu. bon choix.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des gros classiques d'albums clavier batterie? J'en vois pas personnellement.
Non, il n'y en a pas beaucoup. Quand j'ai réfléchi à ça, on avait ressorti un truc, enfin on m'avait parlé d'une chose, c'était... Ah, ça va pas me revenir bien sûr maintenant. Mais en fait, ce qu'il y a eu, c'était... Apparemment, il y a Rhoda Scott qui a fait ça une fois.
D'accord.
Et il y a un autre organisme qui va pas me revenir maintenant.
Ah, le micro de Johan est ouvert.
Il est ouvert, oui.
Ouais.
J'ai pas le nom, mais j'ai un vieux livre que ma mère m'avait acheté, des photos de jazz à Nice, où il y avait Papa Joe en duo avec un organiste.
D'accord.
Donc c'était bien
je
avant
pense
aussi.
Que c'est ça, c'est lui.
Ouais.
Alors c'était pas Jimmy Smith.
Non,
donc,
c'était un autre organiste. Et duo
plus
pareil.
Vieux, et piano batterie, et orgue. Hein. C'est ça, hein. Il jouait les deux.
Orgue, batterie, ça c'est sûr, et peut-être avec un piano. Ouais.
D'accord. Il y a des choses que tu as écoutées particulièrement
mais pas vraiment,
pour Gravité, avant, en travaillant sur
Gravité Zéro. Bah non, justement l'idée c'était aussi ça, c'était se dire dans le paysage, en tout cas déjà national et puis international, ça il n'y a pas vraiment, ça se développe un peu plus, hein, les basses synthés on en voit de plus en plus, même dans les groupes, voilà.
Ah.
Donc je pense que les gens sont contents, donc voilà. Donc 1-0 pour la France.
C'est ça, ouais.
Non, mais c'est vrai que c'était aussi l'idée de cet album et de ce projet.
Ouais, de faire quelque chose de frais.
De se dire, bah voilà, moi je suis content d'arriver dans une radio et que vous me dites, ouais, bah il n'y a pas vraiment beaucoup de références là-dessus. Bah super, je préfère ça que d'arriver et puis me dire, ouais, ça m'a fait penser à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Après, ça fait penser à des choses, mais c'est vrai que dans ce format-là, il n'y a pas beaucoup de références d'albums de l'histoire du jazz. Et ce qui est plutôt cool. Ouais.
C'est aussi l'évolution technique, on va dire. En effet, tu parlais des synthés basses, qui permet aussi de vraiment pour les claviéristes maintenant d'assumer de plus en plus de rôles, d'explorer des sonorités de plus en plus dingues.
Ouais, il y a de ça. Ouais, bien sûr, il y avait l'électricité qui arrivait, donc ça a amené tous les synthés qu'on connaît, tous les synthés vintage. Et puis j'ai l'impression, oui, que ça a été un peu mis de côté avec l'informatique. Et là, on
et
y revient aussi. Ben, je pense à l'orgue aussi qui est. On y revient pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y avait que des B3, les gens ils en avaient marre de porter les B3, et là, ils ont sorti des synthés qui font vraiment la blague, et du coup, les gens y reviennent.
Ouais, d'accord.
Les gens y reviennent forcément parce que c'est léger, on peut le porter, et puis je peux avoir le même son, machin, là, j'y vais. Et je pense que ça a aidé, forcément, et les Moog basses sont assez présents, hein. Que ce soit dans le hip-hop, dans la pop, dans le rock, c'est vraiment... Il y a souvent un bassiste aussi, mais... L'idée de toute façon c'est nous c'était de trouver un truc un peu différent et voilà parce que j'adore faire les basses aussi, c'est aussi pour ça.
On parle beaucoup du jazz anglais, et moi je fais partie des gens aussi qui en parlent parce que il y a ce côté assez groovy qui plaît aux gens de la jeune génération, tout ça. En France on ça existe évidemment, hein, et même depuis longtemps, hein, c'est pas nouveau, le groove dans le jazz quoi. Mais avec une dimension un petit peu en effet qui incorpore cette culture hip-hop, ce que tu viens de tout ce que tu viens de lister et qu'on sent qui est présent pour toi aussi, qui est voilà quelque chose que tu une chose à laquelle tu es connecté aussi. En France, on a l'impression que ça prend un peu plus de temps peut-être pour dans le milieu du jazz affirmer ses nouvelles sensibilités.
Elle est j'ai l'impression qu'elle est un peu plus affirmée dans le côté un peu plus fusion entre guillemets. Enfin. Qui est pas vraiment attrayé au hip-hop, mais qui est plus attrayé au rock. Il y a peut-être ça qu'on pourrait. J'ai l'impression qu'il y a plus ça qui émerge que le côté hip-hop.
Ouais, c'est vrai.
Et la scène anglaise, vraiment, maintenant, fait parler d'elle. Et on prend la Estra Collectif ou j'en sais rien, Beaker et Moses, Sons of Kemet, tous ces trucs-là. Forcément, il n'y a pas. Et encore, ça arrive, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent dans le terme de truc. Je pense qu'on est. J'ai l'impression qu'en France, même si moi c'est moins le cas, en tout cas il y a plus une influence du rock que du hip-hop. Et c'est marrant parce que l'Angleterre c'est quand même un pays de rock aussi et c'est assez intéressant je trouve. Et ce qui se passe aujourd'hui en tout cas ça fourmille. Et bien sûr la scène anglaise là en train de prendre un marché international incroyable.
Oui c'est aussi de ce côté là que je voulais parler de succès, ah ouais. C'est le côté buzz quoi.
Ouais,
buzz
même Jacob Collier, tournées, même qui n'est pas dans cette vibe, mais même lui, enfin, il y a plein de musiciens anglais, ouais, et qui méritent, hein, c'est super. Hein. Donc, c'est vrai que c'est assez marrant, parce qu'on est voisins quand même.
Tu connais Yesai Karapetyan, je suppose, ouais, qui est un pianiste d'origine arménienne, vous connaissez ?
Bah, on s'est croisés deux fois, là, je crois, en peu de temps. C'est cool.
C'est un Marseillais qui vit à Paris maintenant, je crois. Hein,
ah, il est Marseillais.
Il est Marseillais, hein, c'est ça, Romain Morello. Tout à fait.
Super copain.
D'accord.
Bisous, Yesai.
Et alors, eux, justement, c'est une formule trio, mais qui. Ça confine à l'électro, quoi. Il y a des morceaux qui sont carrément limite techno, dubstep, ou. Voilà. Et il y a aussi cette dimension jazz fusion avec des synthés, où on peut penser à Hancock à certains moments ou à d'autres, hein, mais enfin, voilà. Je cite des noms connus. Enfin, toute une variété comme ça de musique sur un seul album. Je vous propose d'en écouter un extrait. Ils sont programmés dans le cadre.
Du Jazz des 5 continents. Ils seront quasiment à la fin du festival. Ce sera le 27 juillet. Ce sera à Longchamp.
Avec une soirée consacrée au clavier, pas mal justement, je crois.
Hein. C'est ouais. Ça.
On écoute One Foot.
Yes.
Hey.